Bonsoir à tous. 70 millions d'euros pour les urgences. Agnès Buzyn tente d'éteindre la colère dans les hôpitaux. Deux primes et des fonds pour les aides-soignants et brancardiers en grève depuis 3 mois et qui devraient y rester. Il parle d'une goutte d'eau dans un océan. Pour Donald Trump, il n'y a pas de doute, c'est l'Iran qui est derrière les attaques de bateaux en mer d'Oman. Le président américain le dit sur Fox News, Téhéran dément. Au sommaire également ce soir, la baisse du prix du gaz au 1er juillet. Nicolas Sarkozy le sauveur, les militants l'appellent au secours des Républicains en plein chaos. Un rassemblement de géants à Paris jusqu'à 2,46 m. Et puis les 40 ans d'un disque culte, le premier album de Joy Division. Le traitement sera-t-il efficace ou simplement un pansement sur une jambe de bois? Question posée après l'enveloppe débloquée par Agnès Buzyn pour les urgences, en grève depuis 3 mois pour des embauches et des hausses de salaire. La ministre de la Santé recevait tous les acteurs ce matin et elle met donc 70 millions d'euros sur la table. Bonsoir Véronique Julia.
Bonsoir.
Mais les soignants estiment qu'on est loin du compte.
Oui, la ministre a présenté 2 mesures en particulier. D'abord une enveloppe de 15 millions d'euros pour passer l'été dans de meilleures conditions. Cette rallonge financera si besoin, en cas de canicule par exemple, des renforts d'effectifs aux urgences. La deuxième mesure, c'est une prime de 100 euros net par mois. Elle sera versée dès le 1er juillet à tous les personnels paramédicaux des urgences. C'est une prime de risque. Elle va concerner à peu près 30 000 personnes. Alors cette prime n'est pas tout à fait nouvelle, mais elle était jusqu'à présent versée à peu de monde. Il s'agit donc de la généraliser. Agnès Buzyn.
La prime de risque existait déjà, notamment pour les infirmiers de psychiatrie qui sont soumis à des patients de psychiatrie très violents. Et donc c'est une prime que nous étendons, en fait, au personnel des urgences, parce qu'ils sont au front, ils sont en première ligne. Je rappelle que la grève aux urgences est partie d'un événement lié à des incivilités.
Réaction prudente des syndicats tout à l'heure. 100 euros de prime, c'est déjà ça, reconnaît Olivier Iwinou de Sud Santé. Mais la revendication initiale était de 300 euros. On est donc bien en dessous.
La France reste parmi les pays qui payent le moins bien ses soignants. Les autres pays, par exemple un pays comme l'Allemagne, auquel on nous compare souvent, un infirmier, c'est 400 euros par mois. De plus, on n'y est pas.
Raffi Stolage renchérit. Patrick Bourdillon de la CGT Santé. 15 millions de rallonges pour passer l'été. On est loin des effectifs et des réouvertures de lits réclamées pour l'hôpital.
Ces 15 millions, c'est un emplâtre sur une jambe de bois. On arrive en 2 heures à trouver 1 milliard pour sauver une cathédrale. Je pense qu'on peut arriver à trouver un petit peu plus que 15 millions pour arriver à sauver l'hôpital public. C'est une réponse de quelqu'un qui colmate des brèches. On essaie médiatiquement d'empêcher que le feu brûle.
Les syndicats doivent se réunir lundi prochain pour décider de la suite à donner au mouvement. De son côté, le ministère a commandé une mission sur la réorganisation des urgences, pardon. Elle doit rendre ses conclusions avant Noël. Ce ne sera pas un rapport de plus, promet la ministre. D'ici le mois de décembre, j'attends, dit-elle, des vraies solutions.
Merci Véronique Julia. Une centaine de services d'urgence sont touchés par la grève aujourd'hui un peu partout en France. L'autre actualité ce soir, c'est toujours le détroit d'Ormuz. Ces 2 pétroliers attaqués hier matin dans le golfe d'Oman. Attaque qui tourne à la guerre médiatique entre l'Iran et les États-Unis. Washington désignait Téhéran hier soir, vidéo à l'appui. Et aujourd'hui, Grégory Phillips, c'est Trump lui-même qui accuse l'ennemi iranien sur la chaîne de télé Fox News.
Donald Trump a 73 ans aujourd'hui. Alors pour cet anniversaire, son émission favorite Fox and Friends l'appelle au téléphone à 8h du matin. La situation dans le golfe Persique est évidemment l'un des premiers sujets abordés et le président américain répète les accusations déjà formulées hier par son secrétaire d'État Pompeo à l'égard de Téhéran. Eh bien, l'Iran a fait ça. On le sait parce qu'on voit le pétrolier avec dessus une mine qui n'a pas explosé. Et c'est signé par l'Iran. On voit aussi des marins en pleine nuit tenter de décrocher cette mine de la coque. Et ils la récupèrent. Tout le monde l'a vu. Je pense que les Iraniens ne voulaient pas laisser de preuves derrière eux. Et ils ne savaient sans doute pas qu'on dispose de moyens pour observer tout ceci très bien, même dans l'obscurité. Nous avons ces images que vous avez diffusées d'ailleurs. C'est sûr qu'ils sont derrière tout cela. Donc on verra bien ce qui se passe, mais les Iraniens ne vont pas fermer le détroit d'Ormuz. Le détroit ne va pas être fermé longtemps, et ils le savent très bien. Donald Trump ajoute que depuis qu'il est à la Maison-Blanche, le régime iranien est en grande difficulté, soumis aux sanctions. Nous sommes prêts à discuter avec eux, conclut le président américain, mais nous ne sommes pas pressés. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et commentaire de Berlin à propos de la vidéo américaine qui est censée montrer des soldats iraniens retirant une mine magnétique non explosée de la coque de l'un des tankers. Elle est insuffisante, cette vidéo, pour tirer des conclusions, d'après le chef de la diplomatie allemande. Autre source d'énergie, le vent, avec deux informations concernant les éoliennes en mer en France. Lancement du parc au large de Saint-Nazaire, 80 éoliennes qui seront installées d'ici 3 ans. Et puis, c'est le groupement avec EDF qui est retenu pour la construction du parc au large de Dunkerque, cette fois 45 éoliennes qui alimenteront 500 000 foyers à partir de 2026 et dont François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, se félicite au micro d'Anne Patinec.
EDF a gagné cet appel d'offres de Dunkerque qui permettra de construire un nouveau champ d'éoliennes en mer au large de Dunkerque à un prix ultra compétitif puisque la concurrence a joué à plein. Il y avait 7 offres de différents groupements, de différents groupes énergétiques. EDF, bien sûr, mais aussi Engie, Total, des groupes étrangers qui tous voulaient investir en France pour développer les éoliennes en mer. La concurrence a été rude, ce qui a permis d'avoir un prix très bas, moins de 50 euros le mégawattheure. C'est aujourd'hui un prix qui est quasiment le prix de marché, donc sans doute qu'il n'y aura quasiment pas de subvention. Et si EDF réussissait à vendre l'électricité à un prix plus élevé, eh bien l'État gagnerait la différence. C'est vraiment un projet gagnant-gagnant pour le développement des énergies renouvelables, pour la région de Dunkerque bien sûr, pour EDF, mais aussi pour l'État français.
Une bonne nouvelle pour ceux qui se chauffent ou cuisinent au gaz, les prix vont baisser 6,7% au 1er juillet. 4 300 000 foyers sont concernés, Delphine Simon.
Une forte baisse qui concerne les tarifs réglementés du gaz, c'est-à-dire 40% des usagers, ceux qui sont abonnés au fournisseur historique Engie. Ils verront la différence sur leur facture de juillet, tout comme ceux qui ont souscrit un contrat indexé sur ce tarif réglementé auprès d'un fournisseur alternatif. Une baisse qui suit la chute des cours mondiaux du gaz depuis la fin de l'année dernière. En Chine et en Europe, l'hiver a été doux, la demande est donc moins forte, alors qu'aux États-Unis, en Russie et en Australie, la production de gaz liquéfié augmente fortement. C'est la loi de l'offre et de la demande. Si les consommateurs ont dû attendre l'été, c'est à cause de la crise des gilets jaunes. Le gouvernement a voulu calmer les inquiétudes sur l'évolution des prix de l'énergie. Il les a gelés pendant 6 mois. D'autre part, il a décidé de lisser les tarifs car il anticipe une hausse des cours à l'approche de l'hiver. Le 1er juillet, ce sera donc un rattrapage. Reste à savoir si le consommateur sera vraiment gagnant car en fait, la différence aurait dû être 2 fois plus forte si on se base sur les cours mondiaux.
L'inflation a ralenti en mai à 0,9% sur un an d'après l'indice définitif de l'INSEE qui tablait d'abord sur une hausse des prix à la consommation de 1%.
On passe à la politique, Sébastien. À droite, place aux revenants.
Marion Maréchal réapparaît pour le premier anniversaire de son école de sciences politiques à Lyon, qui d'ailleurs ne fait pas le plein. 12 étudiants seulement pour la première promotion. L'ex-députée FN assure qu'elle ne veut pas revenir dans le giron d'un parti politique tout en défendant une alliance des droites après la débâcle des Républicains aux européennes. Et chez LR, justement, en voici un que beaucoup attendent toujours comme le messie ou le juge de paix, comme dit Christian Estrosi. Depuis que Laurent Wauquiez a quitté la présidence, c'est Nicolas Sarkozy qui inaugurait une rue Simone Veil ce matin à Belfort, mais qui assure que son quotidien n'est plus la politique. Il n'empêche, François Rosy, l'ancien président, a encore ses fans.
Bonjour, ça va bien.
Nicolas Sarkozy arrive tout sourire sous la pluie de Belfort, poignée de main, selfie, l'ancien président a toujours la cote. Alors que son parti, les Républicains, connaît une crise de ligne et de chef, Nicolas Sarkozy apparaît pour certains militants comme l'homme providentiel.
Comme je lui ai dit, il faut absolument qu'il vienne nous sauver parce que la France va très mal, on a besoin de lui.
Il est, j'allais dire, le sauveur aujourd'hui du pays et de notre famille politique.
Je le verrais bien revenir dans la République et pour reconstituer une droite qui tienne la route. Ça pourrait faire bouger les choses et ramener une droite assez forte.
Pourtant, l'ancien chef de l'État l'assure, il n'est pas venu pour faire de la politique. Un discours en l'honneur de Simone Veil, puis une rencontre avec les syndicats de General Electric dans l'après-midi, là aussi, hors de toute logique partisane.
Je peux les aider, je les aiderai. Je ne prétends pas avoir la solution, mais j'ai pris soin d'appeler le ministre avant, parce que je ne voulais pas qu'il y ait quelques interprétations politiques à tout ça. Pas être l'objet ou le prétexte à quelque chose de politique. Je ne veux pas.
Interrogé à plusieurs reprises sur l'état de la droite et l'avenir des Républicains, Nicolas Sarkozy n'aura rien lâché lors de son passage à Belfort. L'ancien président aura tout de même eu un mot suite aux nombreuses marques de soutien reçues. J'ai beaucoup d'amitié pour les militants, je les aime beaucoup, mais ce n'est plus mon quotidien, ce n'est pas ma vie. À Belfort, François Rosy, France Inter.
À la page politique encore, cet appel d'Édouard Philippe aux maires devant ceux des villes de taille moyenne réunies à Albi, à 9 mois des municipales, appelle à dépasser des étiquettes politiques vieillies. Plus qu'un week-end avant le début du bac, il y a ceux qui vont réviser jusqu'au dernier moment, comme mon neveu Arthur, ceux qui vont tenter de se changer les idées, pas sûr qu'Arthur y parvienne. Pour lui, comme pour la plupart, le stress va continuer de monter. Alors pour mieux le gérer, certains suivent des cours de confiance en soi, comme dans cette école de théâtre à Neuilly, près de Paris, où Luc Chemla a suivi un candidat.
Détends-toi, enlève toutes les mauvaises tensions dans les bras, voilà, secoue-toi.
Le coaching se déroule dans une salle de danse avec de grands miroirs au mur. Au centre, Johanna Cohen, professeure de théâtre, et Loïc, 16 ans. En première S, il passe cette année le bac français.
Est-ce que t'es un peu stressé là ou pas?
Ouais.
Ok, alors marche un peu sur le plateau.
Ok.
Accélère un peu. Baisse jamais la tête. Le jury, il est en face de toi. Hein. Et sors-moi un premier cri.
Ah! Encore. Ah!
Fiche dans la main, Johanna lui fait ensuite répéter un des textes qu'il doit apprendre pour l'oral.
Allez, texte, tout de suite.
Voltaire excelle dans le pamphlet, genre qui lui permet de montrer ses qualités polémiques et de livrer une critique véhémente.
Ok, tu vas juste me reprendre ça en étant mort de rire.
Voltaire excelle dans le pamphlet. Il utilise des thèmes récurrents.
Ok, tu vas me reprendre ça, mais alors tu es autoritaire, hein, tu es vachement carré.
Loïc vient de faire sa 10e séance en 2 mois, de quoi prendre de la confiance avant l'épreuve.
Je me calme en fait. Avant, là où j'allais trop vite, et bah maintenant je me pose et je me concentre sur un point et je respire. Et ça va bien mieux quoi. Et ça m'aide parce que avant j'avais des idées qui arrêtaient pas de s'en mêler, etc. Et ça m'a structuré. Et maintenant, du coup, quand je fais mes grands 1, grand 2, grand 3, mes problématiques, etc., bah tout est bien ordonné quoi. Tout est dans une case.
Pour une heure de coaching, comptez 80 euros.
Reportage signé Luc Chemla. Toujours pas de trace du conducteur de la voiture de Lorient qui a renversé 2 enfants dimanche dernier. L'un d'eux est mort. Le parquet demande que sa passagère soit mise en examen pour non-assistance à personne en danger et qu'elle soit incarcérée.
Les femmes dans la rue aujourd'hui en Suisse.
Pour réclamer l'égalité avec les hommes, elle est dans la Constitution depuis le début des années 80. Discrimination et harcèlement sexuel au travail sont interdits par la loi depuis 96. Mais dans les faits, le compte n'y est pas. Les femmes gagnent en moyenne près de 20% de moins. Au Soudan, cela fait maintenant 10 jours que le sit-in de Khartoum a été dispersé. Le cœur de la révolution où des milliers de personnes vivaient jour et nuit entre discours, danse et musique. Un lieu unique dans l'histoire du pays qui réclamait un pouvoir civil. Jusqu'à ce que l'armée ouvre le feu sur la foule, au moins 118 morts. Aujourd'hui, la zone a rouvert mais l'esprit de la révolution n'y souffle plus. Reportage sur place, Sébastien Nemeth.
Des détritus par terre, des carcasses de voitures, des traces de brûlés et quelques peintures murales, c'est tout ce qui reste du cœur battant de la révolution soudanaise. À Wabilia, ses producteurs de musique, il y a passé des nuits entières dans le bruit et la bonne humeur. Revenir sur place est un choc.
Le sourire, l'espoir, l'amour, le sit-in avait tout ça. Ça m'a tellement inspiré. J'étais accro, car cette énergie, on ne trouvait ça nulle part ailleurs. Mais là, c'est comme si une tempête de sable avait tout emporté. On dirait un paysage d'après-guerre. Et on pense tout de suite aux personnes qui ont été tuées. Ça vous remplit de colère. Je n'ai pas envie d'être ici. C'est comme si cet endroit était hanté.
Le lieu grouille encore de militaires lourdement armés et suscite la peur. Pour interroger les anciens du sit-in, mieux vaut le faire ailleurs. Salah Adine Al-Siddiq, 24 ans, a une maison dans la ville voisine d'Omdurman. Il a du mal à croire ce qu'il est devenu.
Maintenant, c'est vraiment un endroit lugubre, sinistre. C'est comme si une partie de nous était morte. Et je ne pense pas qu'on retrouvera un autre lieu comme cela. Vu comment les militaires l'ont brisé, les gens ont peur qu'il recommence. On a même peur de s'en approcher. Mais le mouvement ne s'arrêtera jamais. La révolution n'est pas dans le sit-in, elle est dans le cœur des gens.
Madania, le pouvoir au civil, c'était le cri de ralliement des manifestants du sit-in. L'avenir de leur révolution pourrait jouer sa survie dans les prochaines semaines si les négociations avec les putschistes reprennent. Sébastien Nemeth, Khartoum, RFI pour France Inter.
Un souci de plus pour Huawei, le groupe chinois déjà sous sanctions américaines. Il reporte de 3 mois le lancement de son smartphone pliable, d'abord prévu en septembre, pour des tests, comme son concurrent Samsung qui devait lancer le sien fin avril.
Une manifestation pas banale cet après-midi sur les Champs-Élysées.
Oui, un rassemblement de géants au sens propre, des personnes de grande taille. Le plus grand mesure 2,46 m. Rassemblement pour sensibiliser Sandrine et Toa Andeg à la différence.
Si vous faites du basket, vous n'avez même pas besoin de sauter pour le panier. Vous, hein.
Ouais, le panier fait à 3,05 m et moi, ouais, j'ai pas besoin de trinquer. Hein.
Ce genre de réflexion, le franco-marocain Brahim Takioula les entend tous les jours.
Je mesure 2,46 m. Je suis l'homme le plus grand d'Europe. et le deuxième plus grand du monde.
Excusez-moi, ce qui m'intrigue, c'est vos chaussures. Vous prenez combien de chaussures ?
58. Pour les baskets, j'arrive à les acheter aux États-Unis. Et pour les chaussures, j'ai un sponsor. J'ai quelqu'un qui me fait les chaussures gratuites en Allemagne, si c'est en mesure. Un artisan ici, pour me faire des chaussures, il m'a demandé 3 500 €.
Ça doit être pénible pour vivre au quotidien, quand même.
Mais on n'est pas là pour pleurer, non, au contraire, on demande juste l'égalité, mais pour montrer les autres que la différence, quelque chose de positif, il faut juste bien le vivre, c'est tout.
Un message répété par cette parade joyeuse, l'une des attractions sur l'avenue la plus célèbre du monde.
C'est monstrueux quand on voit des choses comme ça.
Vous dites monstrueux.
Mais tellement impressionné que moi, quand je passais, je pensais que c'était des mannequins comme ça. Je traversais la rue, mais j'ai dit, mais qui vois-je là ? Et puis quand j'ai vu que c'était des personnes qui respiraient, j'ai dit non, 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 c'est pas possible.
Ça fait 5 ans que cette manifestation est organisée un peu partout en France. L'objectif, c'est de changer le regard, une ode à la différence, dit Draman, 2m37.
Changer le regard des gens. Certaines personnes croient que parce qu'on est grand, on est handicapé ou tout ça, on vient leur montrer que c'est pas le cas. Nous, on se sent bien comme on est.
Pour les Champs-Élysées, Stéphane Beaufy, Sandrine Etouandeg, France Inter.
Elles aussi, dans leur discipline, peuvent devenir des géantes. Les joueuses de l'équipe de France de foot, déjà qualifiées pour les 8e de finale de la Coupe du Monde et qui préparent à Rennes leur dernier match de poule. Ce sera lundi contre le Nigeria. Entraînement ce midi devant leurs supporters et supportrices. Cédric Guillou est toujours le même engouement.
Peu importe finalement où les Bleus se trouvent durant cette Coupe du Monde, l'engouement pour les filles de Corinne Diacre ne faiblit pas. Aujourd'hui à Rennes, près de 200 personnes ont assisté à l'entraînement public.
Au début, je n'étais pas forcément tenté, hein, c'est ce qu'on peut entendre régulièrement. Et puis de le découvrir avec ses yeux également à lui, bah, j'y prends plaisir. Et puis si je suis là aujourd'hui, bah, c'est aussi parce que j'y ai un intérêt.
Photos, vidéos, applaudissements durant l'entraînement, autographes et selfies à la fin de la séance.
C'est ouf.
Je peux prendre un selfie, s'il te plaît ?
L'attaquante Eugénie Le Sommer s'est prêtée à l'exercice avec plaisir.
C'est important le soutien de tout le monde. Et dans les moments difficiles, on l'a vu, contre la Norvège, ça peut nous aider. Donc merci en tout cas.
L'engouement se verra aussi lundi au stade France-Nigeria au Roazhon Park. Ce jour a une nouvelle fois à guichet fermé. Rennes, Cédric Guillou, France Inter.
On termine avec un mythe pour tous les amoureux de musique, l'album de Joy Division, Unknown Pleasure, premier disque du groupe emmené par Ian Curtis, sorti le 15 juin 79, ça fera donc tout juste 40 ans demain. Une pochette noire, une onde blanche, on est à Manchester en pleine période punk, et c'est le début de la New Wave, un nouveau son, une nouvelle époque pour la pop. Et c'est toujours Mathieu Culeron, 40 ans après, un monument de l'histoire de la musique anglaise.
Ce premier album de Joy Division avait tout pour devenir un mythe. C'est le seul album du groupe de la banlieue de Manchester à sortir du vivant de son chanteur Ian Curtis, qui se suicide à 23 ans, un an plus tard. Ce disque marque un tournant dans l'histoire de la musique. Sur les cendres du punk, les musiciens qui formeront plus tard New Order s'inspirent du krautrock allemand, de David Bowie dans sa période berlinoise et du Velvet Underground. Ils posent les bases de la New Wave et continuent de fasciner encore aujourd'hui. La pochette d'Unknown Pleasure se retrouve désormais tatouée sur des bras, des jambes, dans le monde entier. Elle est à l'époque signée Peter Saville, designer devenu culte. Elle représente les oscillations du tout premier pulsar découvert. On ne compte plus les t-shirts vendus qui portent cet emblème de Joy Division. Le premier album de Joy Division, c'est aussi la production glaciale de Martin Annett, qui multiplie les effets sonores, allant même jusqu'à enregistrer dans les toilettes du studio. 40 ans plus tard, cet album austère, froid et martial continue d'intriguer, d'être décortiqué, commenté. Rarement un disque aura autant marqué par son audace et son influence. Le charisme du chanteur, qui ne connaîtra jamais le succès mondial qui lui était destiné, vient parachever ce qui ressemble à une tragédie moderne.
Le morceau Disorder sur ce disque Unknown Pleasure de Joy Division, 40 ans demain et toujours aussi bon. Eux aussi ont quasi 40 ans et sont toujours aussi bons. Philippe Duclos, Patrick Henry de l'autre côté de cette vitre aux manettes toute la semaine. Des journaux de 13, 18 et 19 heures de France Inter.
Ouais, quel rassemblement de quadragénaires ce soir, c'est pas possible, allez, dans un instant le temps.
La météo
avec les cafés Malongo, Grand Cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Beaucoup plus jeune, Sébastien Léas. Bonsoir à vous. Allez, temps instable.
Je fais aussi partie de ce groupe.
Temps instable avec des averses et des orages.
Oui, ce soir et cette nuit, c'est un large quart nord-est qui sera touché par des averses orageuses et demain, une nouvelle vague d'orages est à craindre. Les orages éclateront d'abord sur l'Aquitaine avant le lever du jour, puis gagneront progressivement Midi-Pyrénées, le Limousin et le Massif central. Quelques débordements seront possibles en Languedoc-Roussillon vers la mi-journée. L'après-midi, cette vague orageuse va se décaler vers l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté et l'activité sera encore plus marquée. Les orages seront parfois forts, porteurs de grêle et accompagnés de violentes rafales de vent. 5 départements ont d'ailleurs été placés en vigilance orange par Météo France pour ces orages forts de demain après-midi. La Loire, la Haute-Loire, le Rhône, la Drôme et l'Ardèche.
Et une autre perturbation aussi sur le nord-ouest.
Oui, alors c'est une perturbation peu active mais qui donnera quand même un peu de pluie sur la Bretagne demain matin. Ces pluies faibles et éparses se décaleront vers les pays de la Loire et la Basse-Normandie demain après-midi, permettant le retour d'éclaircies sur le Finistère. Sur le reste du pays, ce sont justement les éclaircies qui domineront avec parfois de belles périodes ensoleillées. C'est sur la Provence et la Corse que le soleil sera le plus généreux. Côté température, prévoyez 17 à 22 degrés sur la moitié ouest demain après-midi, mais jusqu'à 28 degrés plus à l'est. Et si vous aimez le soleil et la chaleur, vous allez être gâté à partir de dimanche, puisque les conditions vont devenir estivales jusqu'en milieu de semaine prochaine.
Merci beaucoup Sébastien Léas.